tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Ce soir, je vais commencer par vous raconter l'histoire de John Cummings et de Isabella Cameron. Le couple s'est marié le 24 novembre 1908 en Écosse. L'Écosse, évidemment, ce beau pays qui a beaucoup, qui est riche en histoire, ça paraît romantique comme ça, mais l'histoire du couple, malheureusement, ça va tourner au vinaigre. Peu de temps après, John et Isabella sont arrivés ici au Québec et sont venus s'installer à Montréal. Par la suite, ils ont eu deux enfants assez rapidement. Grâce à leurs économies, apparemment qu'ils avaient réussi à en mettre un peu de côté, ils ont réussi à faire venir au Canada la mère et les deux frères de Bella, qu'on la surnommait Bella, mais son vrai nom c'était Isabella. Donc, trois ans plus tard, en 1911, on les retrouve tous installés confortablement dans un logis situé au 201A rue Ropery à Montréal. Mais un jour, Isabella a appris que John avait abandonné une première épouse en Écosse, donc qu'il avait connu un premier mariage. C'est ce jour-là, évidemment, qu'elle a décidé de se séparer et d'aller s'installer chez sa mère au 258 Châteauguay à Montréal. Bon, évidemment, les femmes, encore en 1911, les femmes sans mari avaient plus de difficultés à joindre les deux bouts, comme on dit. Donc, pour subvenir à ses besoins, elle a commencé à travailler pour la compagnie Canada Paint Company. Pour se rassurer, le soir, elle rentrait chez elle en compagnie d'Edwin Parker, un ouvrier de la Shearer Brown & Company. Donc, si elle se faisait accompagner le soir, c'est parce qu'elle avait déjà des craintes à propos de son mari. Bon, c'est une chose d'avoir appris qu'il avait connu un premier mariage, et on ne savait même pas si ce premier mariage-là s'était conclu par un divorce, donc avait-il eu le droit de se marier une deuxième fois? On l'ignore, mais ce détail-là m'indique qu'elle craignait déjà le comportement de John Cummings. Et Isabella, malheureusement pour elle, ne se trompait pas sur le comportement de John, parce que dans la soirée du 21 novembre 1911, vers 18h30, donc à fin novembre à 18h30, il fait déjà noir, elle était accompagnée justement par son ami, Edwin Parker, donc Ed Parker, et ils arrivaient tous les deux à l'intersection de la rue Châteauguay et de la ruelle Allen à Pointe-Saint-Charles, quand John Cummings est apparu devant eux en pointant un revolver sur Isabella, rien de moins. L'attaque a été tellement rapide que la jeune femme, personne n'a eu le temps de parler finalement, personne n'a eu le temps de s'expliquer. Que Cummings faisait déjà feu sur Isabella et immédiatement la jeune femme s'est effondrée avec une balle sous l'œil gauche et une deuxième balle dans un poumon. Après l'avoir tué, John a poussé même l'audace, écoutez bien ça, il s'est penché au-dessus d'elle pour lui dire « It is I, Bella, who shoot you ». Et je traduis dans mon fameux québécois « C'est moi, Bella, qui t'a tué. » Donc, vraiment possessif jusqu'à la toute fin. Et Parker, lui, de son côté, le fameux accompagnateur, il n'a rien pu faire, malheureusement. La seule chose à laquelle il a pu servir, c'est d'être témoin. Donc, il a pu servir plus tard de témoin principal dans la cause, ce qui est quand même pas rien. Mais sur le coup, il est resté figé. Pendant que Cummings prenait la fuite. Mais heureusement, celui-ci a été arrêté le lendemain matin sur la rue Saint-Jacques. Un peu plus tard, le procès a révélé que Cummings avait fait de nombreuses menaces avant d'agir. Voyez-vous, là, ça a tout ressorti au niveau à l'époque du procès. Il a été reconnu coupable et condamné à mort lui aussi, mais sa sentence a été commuée en emprisonnement à vie. Donc, Isabella Cameron a été victime d'un conjoint non suicidaire et par arme à feu. Et ici, c'est la seule nuance que j'apporte. C'est le seul cas, je crois, qu'on va voir, qu'on a vu depuis le début et qu'on va voir par la suite. Un des rares, en tout cas, où la victime est abattue ou est tuée en dehors de chez elle. Mais tout de même, il faut garder à l'esprit que oui, elle n'était pas chez elle, mais elle faisait un trajet que son conjoint était probablement au courant. Donc, il y avait quelque chose de familier en lien avec le lieu de la scène de crime quand même. Donc, il savait où la retrouver ou à peu près. Donc, est-ce qu'il l'avait observée dans ses déplacements avant d'agir au cours des jours précédents et tout ça? On l'ignore, mais... C'est sûrement quelque chose comme ça. Il savait où la retrouver, finalement. Il aurait pu, par exemple, s'attaquer à elle au moment de sa sortie de l'usine. Mais bon, ça devait quand même pas être un cave non plus. Là, il y aurait eu probablement plusieurs témoins, d'autres risques qui embarquaient dans ça. C'est sûr qu'il y a eu moins de témoins à l'endroit que lui a choisi, mais quand même suffisamment pour... pouvoir le condamner à mort. Pour le prochain dossier, on se transporte en 1913 et c'est l'histoire ici d'un certain Tommaso Bernardi qui est installé à Montréal depuis quelque temps et lui, il a décidé de faire venir d'Italie une jeune femme du nom de Angelina Regina Reagan. Donc, il a réussi à la convaincre de venir le rejoindre ici. Dès son arrivée à Montréal, par contre, Angelina a compris les intentions malhonnêtes de Bernardi et elle s'est réfugiée aussitôt chez d'autres Italiens. Pour se venger de cette décision-là, Tommaso Bernardi a tenté de faire mettre sa proie en prison, rien de moins. Mais il n'a pas réussi, par contre, assez vite. Bon, effectivement, Bernardi a commencé par vouloir se venger en l'accusant de lui avoir volé 120$. Donc, il essayait de lui faire une mauvaise réputation, puis de l'envoyer en prison. Et la police, heureusement, qui a probablement compris son intention de vouloir la marier de force, a rejeté sa plainte. Voyez-vous, la police n'est pas toujours... Et pas toujours conne, comme on veut la dépeindre. Parfois, les policiers ont quand même un bon instinct, et même à cette époque-là, 1913, c'est pas rien. Toutefois, il y a eu une seconde plainte qui a forcé Angelina à comparaître le 15 avril 1913. Mais puisqu'elle a plaidé non coupable, le juge a fixé sa comparution au 22 avril. Et ça, le 22 avril, ça ne vous dit rien, mais ce sera le jour du drame où tout va se passer. Et ce jour-là, justement, elle est sortie de sa résidence située au 563 rue Notre-Dame-Ouest à Montréal en compagnie d'un ami qui se nommait Luigi Scroli. Il était environ 11h45 lorsque Bernardi est soudainement apparu devant eux. Voyez-vous, ça ressemble un peu juste au cas précédent qui avait coûté la vie à Isabella. Donc, encore une fois, il surgit comme dans une boîte à surprise. Et cette fois-ci, il y a quelques mots qui sont échangés, par contre, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Et après ça, il a sorti une arme de poing. Donc, quand on dit arme de poing, c'est qu'on n'est pas sûr si c'est un pistolet ou un revolver, mais c'est soit l'un ou l'autre. Mais par contre, on dit que c'est une arme de poing de fort calibre. Ça, c'est... les articles de journaux qui ont dit ça à l'époque. Et il a ouvert le feu sur le couple à 5 reprises. Quand je dis le couple, c'est l'ami. On ne sait pas si Luigi Scroli était vraiment l'amant d'Angelina ou si c'était juste un ami qui la protégeait, tout ça. Donc, il a ouvert le feu et dans sa panique, le tueur a pris la fuite tout de suite sur la rue Sainte-Hélène. Mais lui aussi, il a été rapidement rattrapé par le constable Frappier. Bon, on nomme le policier, c'est bien, c'est intéressant. Si vous avez ça dans votre généalogie, peut-être un policier de Montréal, Frappier, il a quand même fait son devoir cette journée-là. Le journal La Patrie a considéré l'incident le niveau de violence qui au niveau de violence qui régnait à cette époque-là dans les rues de Chicago. Là, c'était peut-être un petit peu exagéré, mais quand même, t'sais, on voit qu'il y avait des influences. C'était pas naturel ici à cette époque-là de se tirer comme ça en pleine rue à Montréal. Et évidemment, dans la série Féminicide, ben, c'est sûr qu'on parle de meurtres dont les victimes sont des femmes. Mais ici, Angelina n'est pas morte sur le coup. Dans le fond, elle n'est pas morte du tout. Elle a même survécu à cet incident-là. Mais dans un premier temps, ben, elle s'est réfugiée dans une quincaillerie, la quincaillerie Walker, pour recevoir les premiers soins avant d'être transportée à l'hôpital général en compagnie de Scully, parce que son accompagnateur, lui aussi, avait été blessé. Et d'ailleurs, il a été blessé plus gravement qu'elle. Accompagné d'un sténographe officiel, là, on s'est dépêché pour recueillir les propos des deux témoins, des deux victimes. Donc, le juge Lafontaine a eu cette rapidité d'esprit-là. Il s'est rendu à leur chevet, à tous les deux, pour recueillir leurs déclarations ante mortem. Donc, ça, c'est des déclarations prises alors qu'on sait qu'on va mourir. Et parfois, c'est reçu. C'est quand même pas courant, mais vous allez voir, on va en voir quand même quelques-uns, peut-être pas juste dans les féminicides, là, mais dans d'autres dossiers aussi. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver à l'occasion. Et de son côté, ben, devant le juge, on dit que c'est avec rage que Angelina a dénoncé son agresseur, donc elle n'a pas hésité une seule seconde. Et elle a dit, dès qu'elle a eu l'occasion, elle a dit aux policiers qu'il habitait au 8 rue Sainte-Cécile. Donc, ils sont allés le cueillir assez rapidement. Et après la visite du juge, le père Caramello, un pasteur italien, a rendu visite aux deux victimes. Et bon, bien, les médias ont décrit comme mourant. Angelina, comme j'ai dit, a survécu à ses blessures. Mais par contre, c'est quand même une affaire de meurtre, parce que c'est Scully dans ce cas-ci qui a finalement succombé à sa blessure le lendemain matin, donc le 23 avril. Et comme je l'expliquais un peu plus tôt, et je vais le réexpliquer encore pour être sûr d'être bien compris, même si la victime ici est un accompagnateur de la conjointe et que la conjointe a survécu, c'est quand même un meurtre, un homicide, c'est-à-dire domestique par un conjoint. Et ici, c'est un conjoint suicidaire, on va voir pourquoi. Mais tout simplement parce qu'il faut garder à l'esprit que ce qui est important, c'est l'intention initiale, la motivation initiale du tueur. Donc, sa motivation, c'était de s'en prendre à sa conjointe. Scully a été comme une victime collatérale. C'est le résultat, dans le fond. Il faut faire une différence, donc, entre la motivation du tueur et le résultat de son acte. Par exemple, je fais une parenthèse, mais on va y revenir. Je ferai une série de balados juste sur les tueurs de masse. Mais Denis Lortie, en 1984, avait l'intention initiale de tuer le plus de monde possible. Mais le résultat a été 3 victimes, ce qui est quand même beaucoup. Mais c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Kim Virgil, au collège de Dawson, lui aussi, il s'en allait là pour tuer le plus de monde possible. Mais il a fait une seule victime. Donc, si on se fie au résultat, dans son cas à lui, ce n'est pas un tueur de masse. Mais si on se fie à sa motivation, oui, c'est un tueur de masse. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut classer quand même bien dans les catégories. Alors, c'est pour ça qu'ici, le meurtre de Scully, même s'il n'y avait pas nécessairement rapport dans cette affaire-là, dans cette affaire de couple, si on peut dire, ben, c'est quand même un féminicide à quelque part. C'est pour ça qu'il faut faire attention, hein. C'est pas nécessairement un féminicide. Je le disais dans le premier épisode, c'est trop large. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Ça peut inclure d'autres cas qui passeraient sous le radar, dans le fond. Parce que là, ici, la jalousie, tous les éléments sont là quand même. Évidemment, ce qui vient après le crime, normalement, c'est l'enquête et le procès. Donc, souvent, c'est à ce moment-là qu'il ressort beaucoup de détails. Et selon un témoin qui s'appelait Élie Charron, lui, il a vu Bernardy par 2 fois là, lors de sa fuite, qui a appuyé le canon de son arme contre sa tempe, mais le coup n'a pas parti. Il était réellement suicidaire parce que par deux fois, il a pressé la détente, mais c'est juste que l'arme n'a pas fonctionné. Et on a appris aussi qu'avant tout cela, Bernardi y avait déjà vécu à San Francisco. Une première fois, il avait écrit à Regina Angelina. Lui avait parlé de ses succès en Amérique. Elle lui avait proposé de venir l'y rejoindre. En tout cas, bref, j'ai l'impression que c'était un genre de beau parleur aussi qui lui a fait miroiter tout un monde. Donc, à partir de San Francisco, il lui aurait écrit à de nombreuses reprises. Et plusieurs fois, elle lui déclarait son amour. Donc, il a presque fini par la gagner finalement. Elle est venue au pays, mais en le voyant. Mais lorsqu'elle a mis les pieds au Québec, Regina ou Angelina, comme vous voulez, a découvert que son fameux prétendant n'avait même pas les moyens de couvrir les frais de leur mariage. Alors, elle a découvert qu'il n'y avait pas une crise de scène. Hein? Ça, c'est assez pour faire déchanter une jeune demoiselle qui pense avoir une belle vie après. Et en plus de ça, de ne pas avoir une maudite scène en poche, il lui proposait d'aller vivre chez une femme dont la réputation n'était pas très, très. Vous voyez le genre. Donc, c'est comme s'il oubliait ses engagements, il n'y a plus rien qui tenait. Alors, je ne sais pas si la femme en question était la matrone d'un bordel, mais mettons que c'est pas très invitant et on peut comprendre Angelina là, qui a décidé de. Oh, non, non, moi, j'embarque pas dans ça. Donc, en se réfugiant chez de la parenté, en fait, elle s'est retrouvée chez Scrawley, qui était un marchand de cartes postales qui, lui, habitait sur la rue Craig à Montréal. Et il gérait aussi une boutique de cireur de chaussures. C'est un métier qui n'existe plus, mes jeunes amis. Et peu après, le jeune couple allait s'installer chez M. Oligny au 563 rue Notre-Dame-Est. Donc, on parle du jeune couple, mais peut-être qu'elle a tombé dans l'œil plus de M. Scrolly. Puis là, on les croyait mariés, mais j'ai l'impression que c'était peut-être juste pour la protéger aussi. Bref, ça pouvait ressembler à ça, mais le fait qu'ils étaient ensemble au niveau conjugal, ce n'est pas vraiment prouvé. Mais ils ont quand même réservé une chambre à l'étage ensemble. Finalement, le procès de Bernardi s'est déroulé les 5 et 6 mars 1914 au Palais de justice de Montréal. Oui, seulement 2 jours de procès. Et ça se passait devant le juge Lavergne. Il y a un journaliste de La Patrie qui soupçonnait que Bernardi simulerait la folie et il n'y avait pas tout à fait tort, mais le procureur de la couronne, lui, de son côté, Maître Joseph Walsh, il croyait pas du tout, là, mais vraiment pas, en cette théorie-là. Et il s'est plutôt acharné à expliquer au jury le sens des articles 259 et 261 du Code de criminel. Et on a dit à un moment donné, pendant que le juge s'adressait aux 12 jurés, donc on présume que c'est les directives du juge à la toute fin du procès, Angelina, qui avait survécu, comme on a dit, assistait au procès, et elle s'est effondrée au sol, victime d'une syncope au cœur, a souligné La Patrie. Quand même étonnant. Heureusement que dans un procès comme ça, il y a des experts médicaux, hein, parce qu'ils ont pu aller l'aider. Donc, on raconte que les docteurs Devlin et McTaggart qu'on a croisé un petit peu plus tôt, ils ont d'ailleurs craint pour sa vie, mais tout est rentré dans l'ordre. Bernardi a été reconnu coupable et il y a eu moins de chances que d'autres massacreurs tueurs de femmes, comme on dit. Lui a été pendu le 22 mai 1914. On raconte qu'il a conservé son calme jusqu'à la dernière minute, mais quand il s'est retrouvé en face de la potence, là, il s'est mis à avoir peur, il a changé d'idée finalement. Et c'est en tremblant de tous les membres qu'on raconte, et même en criant, qui a fait les derniers pas. Donc, bref, c'est tout juste si on ne l'a pas traîné sur la trappe. Puis, on raconte que finalement, il a fallu 8 minutes avant de constater son décès. Le 10 juillet 1915, il y a une femme, Madame Mathias, Malheureusement, je n'ai jamais pu apprendre son prénom. Mais elle a contacté la police et c'était pas la première fois qu'elle demandait la protection de la police contre la violence, le caractère violent de son mari. Et son mari, qui était Joseph Mathias, travaillait comme concierge à l'édifice Union, qui était situé au 43 rue Saint-François-Xavier à Montréal. Et encore une fois, le 10 juillet 1915, ben il a laissé libre cours à sa violence, encore une fois. Et celle qui devait en écoper, ben, c'est encore sa femme. Il y a un policier qui s'est déplacé, s'est présenté à leur résidence pour calmer M. Joseph Mathias. On dit que le policier, c'était un dénommé Roy, donc l'agent Roy. Puis, bon, il a calmé les choses et tout ça. Il a probablement discuté avec les deux personnes. Et ensuite, une heure après, il est reparti. Et pas longtemps après le départ du policier, Mathias s'est levé, est allé chercher son revolver de calibre 38 et il a tiré sur sa femme. On dit que la balle est entrée sous le sein droit, donc en pleine poitrine, parmi les organes vitaux, comme on dit. Immédiatement après, ben, elle s'est effondrée, évidemment, ce qui n'est pas une grande surprise. Et il s'est servi de la même arme pour se faire sauter la cervelle. Donc, il a retourné le revolver contre lui et paf. Leur décès à tous les deux a été déclaré quelques heures plus tard à l'hôpital. Et c'est ensuite qu'on a pu en apprendre un peu plus, là, comme c'est le cas d'habitude. Selon les voisins, ben Mathias, il buvait beaucoup. Encore une fois, l'alcool, comme on se le disait récemment. Au moment du drame, il y a un témoin aussi qui a affirmé avoir vu un homme quittait l'édifice Union en courant avant de disparaître dans un tramway de la Chine. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Thomas Mathias, le frère du tueur. Donc, on aurait pu croire qu'il y avait quelqu'un d'autre d'impliqué parce que normalement, les meurtres entre conjoints, ça se produit quand on trouve les deux cadavres, il n'y a personne d'autre d'impliqué. Mais ici, surprise, Thomas Mathias, mais lui, c'est. Finalement, il n'a pas été impliqué. Il était terrorisé parce que quand le drame s'est produit, il était présent auprès de son frère, mais jamais qu'il se doutait que son frère ferait une connerie pareille. Et il a assisté. Donc, lui, dès les premiers coups de feu, il est parti en panique. Et on peut le comprendre, là, disons. C'est ce qu'on appelle pas veiller tard. Alors voilà. Madame Mathias, qui a été victime, et elle, c'est par un conjoint suicidaire, par arme à feu, sur la rue Saint-François-Xavier à Montréal. Et évidemment, c'est sûr que c'est suicidaire parce qu'il est mort lui aussi sur place. Le 12 octobre 1918, donc à la fin de la Première Grande Guerre, il y a un dénommé Georges Picard qui a frappé sa femme avec un objet contondant. On dit que l'action se passait à Waterloo, au Québec. Et il a tellement causé de blessures si graves qu'elle en est morte, finalement. Il a frappé tellement fort et avec acharnement. Et en réalisant ce qu'il venait de faire, lui, il a ensuite pris la fuite dans les bois, tout simplement. Pendant ce temps, la victime a repris ses sens. Elle n'est pas morte tout de suite. Et quand je dis la victime, elle s'appelait Rose Delima Morisseau. Et il lui restait suffisamment d'énergie pour se réfugier chez son père. Donc, elle a pris son courage à deux mains. On peut imaginer tout le peu de force qui lui restait, alors qu'elle devait être ensanglantée de partout parce qu'elle a été frappée avec un objet contondant. Et elle est morte finalement chez son père. Elle a réussi à se rendre jusque chez lui. Et c'est ça, elle est morte vraiment peu de temps après son arrivée. L'enquête du coroner a permis du moins en tout cas, de laisser entendre que Georges Picard n'avait pas toute sa tête. Donc, il y avait peut-être présence de maladie mentale dans cette affaire-là. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le journal La Tribune a annoncé qu'il serait probablement envoyé à l'asile. Entre autres choses, on disait que, bon, ce qui pouvait expliquer son comportement, il refusait de se nourrir, apparemment. Bon. Ce qui avait peut-être pas rapport avec ce qu'il avait fait, là, mais c'était peut-être un signe aussi de dépression. Le juge a demandé d'ailleurs à ce qu'on lui impose un examen psychiatrique. Malheureusement, on ne connaît aucun autre développement à cette affaire-là. Ce qu'on sait, c'est que Georges Picard avait 55 ans. Et fort probablement que si les journaux n'en ont pas parlé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de procès. Et s'il n'y a pas eu de procès, ben j'en déduis qu'il a probablement été confié en institution psychiatrique. Probablement pour une très longue période. Mais voilà, encore une fois, là, je l'ai classé, lui, dans les non-suicidaires parce qu'on n'a pas pu prouver vraiment son aspect suicidaire, mais ça fait quand même une autre victime de plus dans la catégorie des féminicides. Le 24 novembre 1920, cette fois, c'est à Sainte-Véronique de Turgeon que se passait un autre féminicide. Celui, d'ailleurs, de Marie-Christina de Grandpré. Marie-Christina était l'épouse d'un dénommé Oscar Clermont, qui, lui, avait 38 ans. Elle a été assassinée à coups de couteau avant que son corps soit incendié à Sainte-Véronique de Turgeon. Donc, son mari n'a pas lésiné sur les moyens. Non seulement il l'a poignardé, mais ensuite, il a mis le feu pour être sûr, probablement que... qu'elle s'en sortirait pas, mais aussi par mise en scène, parce que quand on cache, quand on veut, en tout cas, cacher son forfait ou son crime par un incendie, ça devient aussi de la mise en scène. Heureusement, Riopelle a été arrêté assez rapidement, on a compris son petit jeu, et son procès s'est déroulé du 25 au 31 janvier 1922 à Sainte-Scolastique, devant le juge Monet. Les journaux de l'époque ont transmis une théorie selon laquelle Riopelle était amoureux de sa victime et que celle-ci l'aurait poussé à commettre son crime. Donc, est-ce que c'est un cas, comme on a parlé plus tôt, qui s'est fait dans l'idée qu'il sortait avec Madame de Grandpré, puis elle voulait rien savoir? C'est assez étrange. Pour sa part, l'accusé pendant le procès était défendu par les avocats Émile Sasseville et Donna Lalande. Et à la fin des procédures, les deux avocats de la défense ont déposé une motion demandant l'acquittement immédiat de leur client, sous prétexte que la couronne n'avait jamais pu prouver l'identification du corps et qu'il n'y avait non plus aucune preuve que Marie-Christina soit décédée. Ah, voyez-vous, il y a des petits ratoureux d'avocats criminalistes qui commençaient à vouloir trouver des failles à quelque part. Donc, eux ont décidé de s'attaquer à ça, s'attaquer à l'identification du corps, parce que c'est sûr que probablement il devait être assez difficile à reconnaître. Mais à cela, le juge Monet a répliqué que seuls les jurés avaient le droit de se prononcer sur la preuve entendue devant eux. Et effectivement, c'est le cas d'un procès. Je vais peut-être vous le répéter plus tard, mais dans un procès, les juges des faits, ce sont les jurés. Et le juge, lui, a comme fonction d'orienter, de faire, de diriger le procès, de voir quelle preuve peut être acceptée ou admissible ou non. Mais les juges des faits, ce sont les jurés. C'est eux qui décident dans un procès pour meurtre. Alors, voilà, c'est comme ça que ça se déroule. Et c'est pour ça aussi que Riopelle a été reconnu coupable. Et il y en a qui vont peut-être sauter de joie. Mais oui, il a été pendu le 6 juillet 1922 à la prison de Sainte-Scolastique. On constate évidemment que les cas anciens, que ce soit des féminicides ou d'autres types de meurtres, d'homicides, quand on recule dans le temps, les cas sont quand même, généralement je veux dire, sont quand même pas complexes, sont quand même assez simples, violents parfois, mais simples quand même. Mais il y en a des petits ratoureux des fois qui essaient de... Je sais pas, tu sais, avec la multiplication des mises en scène, il y en a qui s'essayent, comme on dit. Et ce sera le cas d'ailleurs du prochain qui se passe en 1921 à Saint-Adalbert, dans le comté de Lillet. Cette année-là, il y a une Célina Fortin qui, elle avait une ferme avec son mari, tout ça, à Saint-Adalbert, et elle a été tuée d'une balle de revolver derrière le cou. Donc, elle a été atteinte par derrière. Jusque-là, vous me direz, ouais, pis, hein? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal dans ça? C'est sûr que c'est pas normal d'avoir une balle en arrière de la tête, là, mais côté crime, il n'y a peut-être rien d'anormal là, mais on va voir la suite. Son mari, lui, s'appelait Gustave Dubé. Puis ce qu'il a prétendu, il a quand même pas nié le fait que c'est lui qui avait tiré, mais ce qu'il a prétendu, c'est qu'il l'avait tué accidentellement parce que il était en train d'utiliser son revolver pour tuer des poulets dans sa grange. OK? Jusque-là, si vous venez de la ville, j'en dis pas plus. Si vous venez de la campagne, vous avez probablement déjà des doutes. Toutefois, durant l'enquête préliminaire, il est apparu qu'il aurait plutôt planifié son crime car il prévoyait se débarrasser de sa femme afin de pouvoir vivre sa vie avec une autre femme dont il était amoureux. Donc, j'en ai déjà parlé, mais ici, ça implique deux catégories, dans le fond, côte à côte, là, pour expliquer le crime. Donc, à la fois, c'est un féminicide, oui, parce que c'est par un conjoint, mais ça implique aussi le meurtre par passion. Mais ça, on reviendra. Le meurtre par passion, c'est plus complexe, un peu. Donc, je ferai une série de balados là-dessus, ou une balado assez complète. Alors, selon un témoin, Dubé, il aurait confié, lui, que quelques jours seulement avant le drame, qu'il n'aimait pas sa femme. Il lui a dit ça, lui. Il était un peu comme tanné, il était plus capable de garder ça pour lui. Et qu'il finirait par s'en débarrasser, un jour ou l'autre. Rien de moins, c'est quand même pas rien. Trois jours auparavant, il y a un autre témoin qui a vu Célina Fortin, qui se tenait la tête et elle prétendait avoir été frappée par un arbre en accompagnant son mari dans une promenade en forêt. Tu sais, le syndrome de la femme battue, elle va mettre ça sur la faute de quelque chose d'autre plutôt que de dire que c'est son mari qui l'a frappé. Bon, bref, ça ressemble à ça, là. Quoique réticente à témoigner, la fille de l'accusé, Alberta Dubé, qui avait seulement 10 ans, la pauvre petite, elle a été appelée à témoigner, puis elle a admis qu'elle avait souvent vu son père tuer des poules, mais que c'était la première fois qu'il utilisait un revolver. Voyez-vous là, hein? Les gens qui viennent de la campagne l'ont compris avant. Normalement, on prend pas un gun pour tuer des poules. Ça marche pas là. Il y a quelque chose qui colle pas dans ça. Après le drame, Dubé aurait aussi dit, voyez-vous, là, on revient sur le même point, mais c'est tellement important, le comportement du tueur avant et après aussi le crime. Donc là, c'est après. Il a confié à un autre témoin, et je rouvre les guillemets, « Cela ne s'est pas produit comme je m'y attendais, mais cela a bien marché quand même. » Hein? T'as quand même pas trop déçu de sa méthode. La fameuse maîtresse pour laquelle il aurait tué sa femme s'appelait Diana Roy, ou Diana Roy. Et il s'est avéré que, bon, on l'a appris pendant le procès, il lui aurait offert de se débarrasser de son mari aussi. Tu sais, il était parti sur une belle galère, là, lui, là. Il était prêt à tuer tout le monde pour vivre avec elle. Alors voilà, ça s'ajoutait aux preuves là, contre Dubé. Donc, le procès de Dubé s'est tenu les 6 et 7 avril 1923 à Montmagny, devant le juge Gibson. Le juge Gibson, ça vous dit probablement rien. On le verra peut-être plus tard en détail. C'est lui qui avait présidé le procès à peu près même à la même époque, en 1921. Des deux suspects dans la célèbre affaire Blanche-Garneau. Mais on y reviendra ça aussi. Hein? Je vous laisse sous votre appétit bien souvent, mais bon. Je vais essayer de tenir toutes mes promesses puis de revenir sur tous les sujets. Dubé, ben lui, il était défendu par les avocats Léo Laflamme et Alain Tachereau, tandis que la couronne était représentée par Fernand Choquette et Lucien Cannon. Ça aussi, c'en est deux là, qui étaient impliqués dans l'affaire Blanche-Garneau et qui étaient des célèbres procureurs de leur époque. Célèbres, mais pas infaillibles non plus, on le verra, surtout dans l'affaire Blanche-Garneau. Selon un article du journal L'Action catholique du 7 avril 1923, on dit que de nombreux témoins ont été entendus. Les témoins de la couronne, tendent à démontrer que Dubé a causé volontairement la mort de sa femme. D'autres, surtout la petite fille de la victime, semblent prouver que la mort de Mme Dubé a été accidentelle. Mais on rappelle évidemment que Mme Dubé a reçu une balle de revolver en arrière de la tête pendant qu'il tuait des poules. Finalement, Dubé, on n'a pas cru à son histoire. Les jurés, vous avez peut-être eu chaud, là, puis vous avez peut-être cru qu'à un moment donné, il s'en sortirait. Mais non, le juré, les 12 jurés, qui étaient tous des hommes à cette époque-là, n'ont pas cru à son histoire. Donc, il a été reconnu coupable et condamné à mourir, condamné à mort. Et effectivement, lui, sa sentence n'a pas été commuée. Donc, il a été pendu à 8 heures le matin, le 14 décembre 1923. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce soir, mais on poursuivra dans le prochain épisode avec le cas de Marie-Louise Roy en 1925. Donc, tranquillement, on se rapproche de notre époque, un peu plus civilisée, mais vous allez voir que ce type de crime-là n'évolue pas tant que ça. La jalousie, l'alcool, les possessifs et tout ça, c'est même les moyens de façon de tuer ne changent pas, même si ça se précise avec les, comme on l'a dit, avec les suicidaires sont portés à utiliser beaucoup plus l'arme à feu, les non-suicidaires vont s'en aller vers toutes sortes d'instruments, mais vont surtout vont faire preuve de mise en scène à l'occasion. Et voilà. Alors, c'est à suivre. Et évidemment, le but de cette série-là, c'est d'en parler le plus possible, donc d'énumérer des cas qui ont été oubliés dans le temps, parce que les cas que vous entendez ici, on n'entend jamais parler. Mais quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Là. J'ai jamais vu de balado, de documentaire ou quoi que ce soit revenir sur ces cas-là. C'est des cas oubliés dans le temps, finalement. C'est malheureux, mais on essaie de les faire revivre ici parce que je pense que pour sensibiliser, le meilleur moyen, c'est d'en parler, mais d'en parler en énumérant les cas et non pas en le faisant de façon hystérique puis en imposant absolument ses sentiments et tout ça, mais simplement en les répétant. Et ça démontre par la même occasion qu'il y en a eu tellement et que ça se multiplie, qu'il y en a de plus en plus. Alors voilà. Merci beaucoup. Au revoir. C'était une autre balado de Mémoire d'archives. Si vous avez des suggestions à me faire, écrivez-moi à eric.veillette@hotmail.ca. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.